Seigneur notre Dieu, à la fin de cette journée, nous voulons encore nous attendre à toi pour recevoir ta bénédiction, cette bénédiction qui seule enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Oh, que ce soir, pour chacun de nous, comme le dit l'Écriture, il puisse y avoir de la lumière. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Eh bien, chers amis, nous arrivons déjà à ce samedi soir, 13 février, où nous poursuivons notre étude à l'écoute des Écritures, et vous aviez à lire et à méditer le chapitre 6 du Deutéronome, qui est le cinquième livre attribué à Moïse. Et nous vous disions que vous pouviez vous poser, en lisant ce chapitre, cette première question: qu'est-ce que Dieu est en droit d'attendre de nous aujourd'hui? Et puis, en vous souvenant que c'est l'histoire d'Israël qui nous est racontée dans ce chapitre, une histoire donc d'un peuple qui est réel et qui peut être daté, quelle est la grande vérité dont Israël devait être le témoin sur la terre auprès de toutes les nations? Ce chapitre, vous l'avez remarqué, nous parle de l'amour pour Dieu et ce qui découle de cet amour. Si réellement nous aimons Dieu, notre vie est transformée, car l'amour de Dieu la transforme, l'illumine, la vivifie. Vous aurez remarqué que dans les premiers versets, versets 1 à 3, vous avez un préambule qui est une exhortation à la crainte du Seigneur, qui consiste, cette crainte du Seigneur, dans l'observation de tous ses commandements et qui est pour Israël la condition du bonheur. Si tu veux être béni, eh bien, observe les commandements du Seigneur. Et ces commandements, nous dit l'apôtre Jean dans son épître, ne sont pas pénibles. Si vous vous arrêtez devant chacun de ces commandements, est-ce que c'est pénible ce que Dieu vous demande? Oh, c'est pénible de ne pas tuer. C'est pénible de ne pas voler. C'est pénible de ne pas commettre adultère quand ça nous plaît. Ce que c'est pénible tout cela. De ne pas dire du mal de son prochain. Que c'est pénible. Tu veux avoir des jours heureux dans ta vie? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la fraude. Est-ce que tes commandements sont pénibles? Dites-moi un peu. Alors, littéralement, je regardais dans la traduction de Chouraki, le juif, il faudrait lire « Voici l'ordre, les lois et les ordonnances du Seigneur. » Second a traduit « Voici les commandements ». Mais tout de suite, Moïse nous montre qu'il y a un grand commandement. Ce terme est donc, dans le texte littéral, il est au singulier. Ce terme est au singulier, « le commandement ». Voici le commandement, vous devez mettre, les lois et les ordonnances. Mais il y en a un. Et Moïse nous montre tout de suite qu'il a en vue le devoir central qu'il va inculquer. Alors, au verset 2, nous allons lire ces versets pour les repasser dans nos cœurs. Voici le commandement, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Ça sera donc la tâche qu'avait Moïse, la tâche de son successeur qui sera Josué, la tâche ensuite des juges, la tâche des rois et la tâche des prophètes, de tous les conducteurs de ce peuple. Ces commandements ne changent pas. Et il dit, le Seigneur nous a commandé de vous les enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Si vous avez une connaissance de la vérité, ce n'est pas pour meubler votre intelligence, c'est pour mettre en pratique. Nous devons avoir une connaissance pour vivre, une connaissance qui nous serve tous les jours de notre vie. C'est cela qui est envisagé, pour que nous les mettions en pratique. Et pour Israël, c'était dans le pays dans lequel ils allaient prendre possession. Ils avaient été 400 ans esclaves en Égypte. Ils avaient été merveilleusement délivrés par l'intervention de Moïse. Et maintenant, après 40 ans de pèlerinage dans le désert, ils étaient en présence de ce grand pays de Canaan, que Dieu leur avait promis à leur père, en particulier à Abraham, de leur donner. Mais ce pays était occupé et ils devaient en chasser les occupants. Et vous me direz, mais enfin, c'est quelque chose de terrible, donc ils ont pris possession d'un pays qui était habité par d'autres peuples. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dépossédé ces peuples? C'est là qu'il vous faudrait avoir une connaissance de toute l'Écriture. C'est que ces peuples, que Dieu avait pourtant créés, étaient devenus tellement idolâtres qu'à un moment donné, Dieu ne pouvait plus supporter leurs iniquités. Il est dit que l'iniquité des Amoréens, c'était le nom qu'on donnait à ces sept peuples qui habitaient dans le pays de Canaan, l'iniquité des Amoréens était parvenue à son comble. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, quand il le sort lui-même, Abraham, du paganisme d'Ur de Chaldée, il lui dit, je vais te donner un pays, tu seras mon représentant. Et je me révèle à toi comme le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Mais dans ce pays que je vais te donner, tu ne pourras pas le posséder maintenant. Tu peux te promener de long en large dans toute cette terre de Canaan, en sachant que c'est ce pays que je vais donner à qui? À tes descendants. Mais tu ne pourras pas en prendre possession maintenant. Et avant que tu puisses le posséder, vous avez ça dans le chapitre 15 de la Genèse, avant que tu puisses posséder ce pays, vous devrez, tes descendants seront pendant 400 ans en Égypte, esclaves des Égyptiens. Mais après ces 400 ans, je visiterai ce peuple en Égypte et je le délivrerai et je lui donnerai la possession de ce pays quand l'iniquité des Amoréens sera parvenue à son comble. Donc, Dieu donnait encore combien d'années aux Amoréens pour se repentir? 400 ans. Donc Dieu est un Dieu de patience. Comme il avait donné 120 ans au jour de Noé pour que le peuple du temps de Noé se repente de sa violence et de sa corruption. Mais il dit encore 120 ans, et puis au bout des 120 ans, ce fut le déluge. Parce que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Quand il vous fait une promesse, qu'est-ce qu'il fait de sa promesse? Il l'accomplit. Mais quand il vous menace aussi, qu'est-ce qu'il fera de sa menace? Si vous ne vous repentez pas, elle s'exécutera. Et cela, vous pouvez voir ça à travers toute l'histoire de l'humanité. Dieu est patient. Pour Sodome et Gomorre, Dieu a donné aussi du temps, tout le temps de la vie de Lot, pour que les gens de Sodome se repentent. Il y avait là un témoin, mais les gens de Sodome sont devenus de plus en plus mauvais, à un tel point que leur péché était devenu criant jusqu'au ciel. Et Dieu dit, maintenant je vais détruire ces villes de la plaine, et nous savons que Sodome et Gomorre étaient des villes très florissantes, et qu'elles ont été, hélas, complètement détruites. Ça, c'est des faits historiques. Puis, quand je pense aussi au message que Jonas devait apporter à la ville de Ninive, Jonas arrive dans cette ville et dit encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gens de Ninive, ces païens, qui s'étaient complètement endurcis, ils ont été touchés par le message de Jonas. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont repentis. Depuis les couches les plus hautes de la société, le roi, jusqu'aux classes les plus pauvres, tous ont pris le sac et la cendre, ils ont demandé pardon au Dieu des cieux, et Dieu leur a accordé son pardon. Au bout des 40 jours, la ville de Ninive n'a pas été détruite. C'est le pauvre Jonas. Il était un peu furieux parce qu'il disait, ils vont croire que je n'étais pas un vrai prophète. Et Dieu dit, mais moi, est-ce que je ne suis pas un Dieu de miséricorde? Quand Dieu menace, mais qu'il voit que sa parole a un accès dans le cœur, il est tout prêt à pardonner. Et Ninive a eu encore 100 ans de sursis. Mais au bout de 100 ans, ils sont retombés dans les mêmes fautes et le jugement est venu. Mais le jugement a été arrêté à cause de ce repentir. Mais quand une nation ne se repent pas, eh bien, tôt ou tard, le jugement s'exécute. Alors, ne pensez pas qu'il y a eu de l'injustice quand Dieu dit à Israël, « Je vais te donner ce pays qui est ruisselant de lait et de miel, tu habiteras des villes que tu n'as pas bâties, tu mangeras du fruit d'arbres que tu n'as pas planté, voilà ce que je te donnerai. » Et ceux qui étaient les propriétaires, n'en ayant pas été dignes, ont été chassés de ces territoires. Tout cela, nous dit saint Paul, a été écrit pour nous servir d'instruction à nous-mêmes. Alors, Israël, donc, va entrer dans ce pays. Et le Seigneur lui fait des recommandations bien précises. Et j'espère que vous allez en tirer profit pour vous-même. Goethe, le grand écrivain allemand, disait, il l'avait déjà bien reconnu, l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. C'est notre histoire et vous pouvez vous y retrouver. Alors, prenons garde ce soir de nous dire, bon, c'est une histoire d'un autre peuple et d'un autre âge, c'est une histoire qui nous concerne en 1982. Qu'est-ce qui nous est demandé? Eh bien, de mettre en pratique ce que nous connaissons, afin que nous puissions jouir de la bénédiction, comme Israël pouvait prendre possession de ce que Dieu avait promis. Et je voudrais que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant quand, à certaines périodes de l'année, tous les jours de ta vie. Vous voyez que c'est tous les jours de notre vie que nous devons être chrétiens, pas seulement un jour sur sept, le dimanche, en allant à la messe ou en allant au sermon ou en allant à un culte quelconque, tous les jours de ta vie, mais qui? Toi, et puis qui? Tes fils. Toi, ton fils, et ta fille. Alors, vous voyez que ce toi, ton fils, eh bien, cette idée de l'héritage spirituel que les pères ont à transmettre aux enfants, si vous le remarquez, il revient plusieurs fois dans ce chapitre. Quel héritage pensez-vous donner à vos enfants? De l'argent? Oh, plût à Dieu que vous soyez un homme ou une femme qui donne un héritage spirituel à ses enfants. Je me souviens toujours d'une femme que j'ai bien connue en Suisse, qui est maintenant vers le Seigneur, qui avait eu 6 enfants et qui me disait « J'ai eu le bonheur de mettre 2 fois mes enfants au monde. » Elle n'a pas compté sur les camps. Elle n'a pas compté sur l'Église. Elle a été une véritable mère qui a donné naissance à ses enfants une première fois d'une façon naturelle, mais qui a veillé sur eux pour les éduquer elle-même, et ses 6 enfants se sont convertis par le moyen de leur mère. C'est beau cela. J'ai mis au monde mes enfants 2 fois. Ils sont nés 2 fois. Mais ça, c'est un travail. Eh bien, voilà le travail d'une mère. Ô jeune maman, souvenez-vous de cela. Ne vous suffisez pas de mettre au monde votre enfant, il faut l'amener à cette nouvelle naissance. Et vous ne devez pas compter sur l'extérieur. Vous devez vous dire, Dieu m'a donné cet enfant, c'est pour que je l'amène à la foi et que je l'enseigne moi-même. C'est le grand enseignement ici. Pour que toi, ton fils et ta fille, soit enseigné dans toutes les lois et dans tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. La bénédiction en Israël se comptait surtout sur la longueur des jours. C'était des bénédictions plutôt matérielles et terrestres. Pour nous, ce sont des bénédictions essentiellement spirituelles. Alors, verset 3. Tu les écouteras. Donc, vous voyez qu'il faut les écouter. Alors, comment pouvez-vous écouter les commandements du Seigneur? Vous qui avez des Bibles. En lisant à haute voix. Vous les écoutez en même temps. Ce n'est pas simplement d'aller à la messe, d'aller au sermon, écouter la lecture de l'Écriture, mais vous-même, vous lisez la parole et vous l'écoutez. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, c'est l'image de la bénédiction, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel, cette expression est une expression proverbiale qui nous parle de Canaan, du pays de la promesse, où il y a toute espèce de bénédiction et de facilité. Et alors le verset 5 nous montre, le verset 4, du verset 4 à 5, nous donne le grand commandement du Seigneur. On a dit que c'était un commandement au singulier, le grand commandement qui englobe tous les autres. C'est ce commandement-là. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ce verset, donc, pose le fait divin d'où découle un grand devoir. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé ensuite à Moïse comme étant le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, le Dieu qui se révèle à Moïse, c'est le seul vrai Dieu. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a point de Dieu. Alors Israël reçoit cette révélation et est dépositaire sur cette terre de cette révélation. Et c'est lui qui sera le peuple témoin auprès de ses enfants et de toutes les nations idolâtres. C'est lui qui doit être le peuple témoin qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors que toutes les nations sont idolâtres et ont plusieurs dieux. Toi, tu as la connaissance du vrai Dieu. Alors, puisque tu as la connaissance du vrai Dieu, puisque tu deviens le témoin de la vérité divine sur la terre, qu'est-ce qui découle pour toi comme devoir? Tu aimeras. N'est-ce pas? C'est là le grand commandement. Jésus l'a souligné lui-même dans l'Évangile en disant « Le grand commandement de Dieu, c'est le premier commandement. » Il ne récite pas les 10 paroles, il dit « Le commandement qui résume toute la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et puis, le second, dira Jésus, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous voyez donc que déjà dans le Deutéronome, le grand commandement de Dieu est exactement celui que vous trouvez dans l'Évangile et dans les Épîtres. Ce que Dieu vous demande, c'est de l'aimer. Est-ce que nous l'aimons? C'est facile de dire « je t'aime ». « Oh Dieu, je t'aime ». On le chante souvent, ça. Mais est-ce que nous l'aimons? Comment pouvons-nous contrôler si nous l'aimons? Que disait Jésus à ce sujet? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». La preuve que nous aimons le Seigneur, c'est que nous trouvons notre plaisir à lui obéir. Et nous ne trouvons pas ses commandements pénibles. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que ces versets 4 à 9 ont une très grande importance encore aujourd'hui pour les Juifs. C'est ce qu'on appelle le schéma Israël. C'est au fond la confession de foi du peuple juif. Vous pouvez souligner ces versets 4 à 9. Dans chaque culte, dans une synagogue, on commence l'ouverture du culte par la lecture de ces paroles. On récite le schéma Israël. Au culte du matin, si le culte a lieu le matin dans la synagogue, et au culte du soir, avant toute autre liturgie, avant toute autre lecture, c'est cette lecture que l'on fait dans le culte juif. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Et c'est d'une voix, vous savez, quand on est le soir du sabbat en Israël, dès que le soleil se couche, vous entendez dans les maisons des Juifs pieux, vous entendez cette voix, la récitation du schéma Israël. Et quand vous vous approchez d'une synagogue, c'est la même chose. Écoute Israël, mais évidemment en hébreu, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et puis les enfants sont réunis avec les parents. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est cela qu'on appelle le schéma Israël, écoute Israël. Et tout juif qui est né chez les juifs, même si ses parents sont athées, connaît cela par cœur. Et je voudrais vous dire ici une chose qui m'a bouleversé. Vous savez que 6 millions de juifs ont passé par les chambres à gaz sous le règne d'Hitler. De 39 à 45, 6 millions de juifs ont été exterminés dans les camps de concentration. Ce grand holocauste dont on parle. Et selon le témoignage d'officiers allemands qui présidaient à ces exécutions, ces juifs qu'on avait amenés de tous les pays et qui arrivaient dans cette Allemagne ou dans cette Pologne, dans ces camps de mort et qui étaient triés, qu'on envoyait à la mort nus, eh bien, et ils avaient, et j'ai vu ces lunettes où on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de ces chambres à gaz. Ces gens pressés les uns contre les autres et qu'on faisait mourir. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ces gens qui peut-être ne s'étaient plus souvenus de Dieu, n'avaient pas du tout invoqué Dieu dans la prospérité. Vous savez ce qu'étaient beaucoup de juifs? Dans la prospérité, enfin vous ne vous en souvenez pas, peut-être vous étiez trop jeune, mais avant ces terribles années de 1930 à 1945, eh bien les juifs un peu dans tous les pays occupaient le haut du pavé et la plupart étaient athées, mais ils avaient quand même reçu cette instruction. Et il a fallu qu'ils arrivent dans ce dépouillement le plus total pour qu'on les entende. Face à la mort qui descendait sur eux, écoute Israël, le Seigneur l'Éternel, notre Dieu est un seul éternel. Et ils mouraient en récitant ces paroles. Alors, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Est-ce que ça vous dit que des 6 millions de juifs qui sont morts dans les fours crématoires parce qu'ils n'ont pas confessé Jésus, ils sont perdus? Et ils ont passé par les fours, par les chambres à gaz, par les fours crématoires, pour aller ensuite en enfer? C'est ça votre théologie? Quel est ce Seigneur qu'ils invoquaient dans l'Ancien Testament, qui est invoqué dans l'Ancien Testament? C'est le Seigneur que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Et que vous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 10 des Romains? Dans le chapitre 10 des Romains, il est dit une parole qui est merveilleuse. Quand j'ai dit cela une fois dans une conférence à Jérusalem, il y a eu un grand remue-ménage parmi les Juifs. Et pourtant, c'était vrai. Verset 20. Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et au sujet d'Israël, il dit « J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Et maintenant, je reviens au verset 11. Au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, face à la mort, dans une chambre à gaz, pressés les uns contre les autres, vous croyez qu'ils ont récité machinalement le schéma Israël? Ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont invoqué le Seigneur. Et je suis convaincu que quand nous serons dans l'au-delà, nous découvrirons que par ce terrible holocauste, que Dieu n'a pas empêché, il a sauvé des multitudes de personnes. De sorte que le diable fait une œuvre qui le trompe. Mais croyez-le, chers amis, si vous avez enseigné la parole à vos enfants, si vous leur avez donné la possibilité d'apprendre par cœur des textes de l'Écriture, même si aujourd'hui, ils ont l'air de rejeter cette parole, un jour ou l'autre, un texte de l'Écriture peut les transpercer comme une flèche, et il n'y a pas des heures à attendre pour qu'ils se convertissent. Un regard sur le Seigneur, et ils peuvent être sauvés. Voilà le schéma Israël que je voulais mettre sur vos cœurs. Alors, prenez maintenant cette confession de foi. Qu'est-ce que vous trouvez d'abord? Il faut écouter, hein? Écoute Israël. Secondement, il faut mettre en pratique ce qu'on a entendu. Troisièmement, il faut aimer. Si on met en pratique, on aime. Mais aimer comment? De tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Donc le cœur, c'est l'organe par lequel l'homme perçoit Dieu et entre en contact avec lui. L'âme, c'est la personnalité humaine dans sa totalité, dans la totalité de ses facultés, intelligence, mémoire, volonté. Tout est imprégné de cet amour pour le Seigneur, et puis de toute sa force. C'est l'énergie que l'âme déploie au dehors. Il y a une manifestation que Dieu est dans notre cœur, que c'est lui qui est le moteur de notre vie, que c'est lui qui nous fait agir. Et puisque Dieu est amour, si l'amour de Dieu est dans notre cœur, il y a une puissance d'amour qui nous fait accomplir les commandements. Quand on aime, il est facile de suivre le Seigneur. Quand on l'aime, quand quelqu'un aime, il fera même des folies pour l'être qu'il aime. Eh bien, apprenez à aimer, écoutez, pratiquez, aimez. Puis qu'est-ce qu'il faudra faire? Intérioriser. Ces commandements, verset 6, que je te donne aujourd'hui, seront où? Dans le livre? Dans ton cœur. Les vraies tables, ce n'est pas les tables de Moïse, les tables de Pierre, c'est les tables de chair. Ça doit être écrit dans notre cœur. Il faut donc intérioriser. Et puis, une fois que c'est écrit dans notre cœur, il faut les inculquer à qui? À nos enfants. Donc vous êtes d'abord responsable pour, dans le cercle de la famille, à vos enfants. Il faut les inculquer à vos enfants.
Et tu me parleras quand? Quand tu seras dans ta maison. Qu'est-ce qui parle dans votre maison? La radio, la télévision? Qu'est-ce que vos enfants entendent? Est-ce qu'ils vous entendent, père, mère, leur parler du Seigneur? Qu'est-ce que vos enfants entendent? Qu'est-ce que nous entendons dans nos demeures? De quoi parlons-nous dans nos demeures? Tu en parleras. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est si intéressant? Demandez au Seigneur de vous révéler si c'est intéressant. Quand tu seras dans ta maison. Puis quand? Quand tu iras en voyage. On est justement le moment en voyage pour ne plus avoir à parler de ça. Je pourrais me distraire en voyage. Non. Quand tu seras en voyage. Et c'est justement là en voyage que le Seigneur nous donne toute espèce d'occasion. On se dit justement, ben maintenant j'aurai un peu de repos, je m'en vais dormir, je suis dans un avion, bien je suis dans un train. Puis c'est justement là que Dieu me demande d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme qui regarde et qui est angoissée et qui nous parle. Et puis, on a un témoignage à rendre. Et nous n'avons pas à avoir honte de rendre ce témoignage. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Et puis, quand tu te coucheras, donc finir nos journées avec lui, et quand encore, quand tu te lèveras, avoir un premier contact avec le Seigneur et l'entendre nous parler, le connaître comme notre réveil matin, quand tu te lèveras. Puis, et ce n'est pas seulement ça, mais tu les liras comme un signe sur tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir cette parole liée comme un signe sur nos mains. C'est ce qu'on fait avec nos mains. Notre travail. Hein? Dans notre travail, il y aura une manière de travailler. Est-ce que vous avez des mains de serviteurs et de servantes de Dieu? Ce n'est pas que les prêtres ou les pasteurs qui sont serviteurs et servantes de Dieu. Vous êtes tous serviteurs et servantes de Dieu. Et il doit y avoir ce signe sur vos mains. Votre manière d'agir, votre manière de travailler doit refléter que vous êtes chrétien, que vous êtes disciple du Seigneur. Alors, le signe sur vos mains, c'est donc le travail, l'action. Et puis, tu le mettras comme fronton entre tes yeux. Est-ce que vous allez maintenant, comme le font vraiment les pharisiens, mettre une petite boîte avec un texte biblique là, sur le front? C'est ça que vous allez faire? Non, le Seigneur ne vous demande pas cela. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière vos yeux? Votre pensée. Il faut que, que votre pensée soit imprégnée de la parole de Dieu. Que cette parole influence votre manière de penser. Et vous savez, toute notre vie dépend de notre manière de penser. Au fond, nous sommes ce que nous pensons. Votre manière de penser. Et c'est là qu'il faut aller. Seigneur, purifie mes pensées. Veillez à la porte de vos pensées. Puis maintenant, verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce que vous êtes déjà allé en Israël? Est-ce que vous êtes déjà allé dans la maison d'un juif pieux? Qu'est-ce que vous trouverez? Vous trouverez ce qu'on appelle la mezuza. Sur le poteau de droite de la porte, il y a une petite boîte. Et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Le schéma Israël. Il y a ces 5 versets. Verset 4 au verset 9. Écoute Israël. Il y a un petit rouleau de papier sur lequel est inscrit le schéma Israël. Écoute Israël. Et chaque juif pieux, dans chaque maison à Jérusalem, vous avez, même chez les juifs qui ne sont pas pieux, il y a quand même la mezuza. Et alors, un juif qui est pieux, il n'entre jamais il n'ouvre jamais la porte sans avoir mis d'abord son doigt sur la mézouza. Puis après, il baise son doigt. Et puis ensuite, il prononce la bénédiction du psaume, lequel ? 121, verset 8. L'Éternel bénira ton entrée et ta sortie dès maintenant et à toujours. Voilà. Vous trouvez pas que c'est intéressant quand même de connaître un peu les mœurs des autres? Vous dites, ce bonhomme-là, ce juif-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une petite boîte là, sur le montant de sa porte. Mais ça a un sens. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Vous avez la délicée? Dans cette petite boîte, il y a un texte biblique. Et puis, quand il passe, il se souvient de cela. Ce souvenir, mes amis. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé cela? Pour qu'il se souvienne. Écoute, Israël, quand tu entres, quand tu sors. Voilà ce que vous pouvez trouver dans ces chapitres. Donc, il y a un enseignement pour nous, même si nous regardons ce que font les Juifs. Verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Et alors, il y a trois dangers qui sont signalés. Dans ces versets 10 à 19, nous voyons trois dangers qui menacent l'amour d'Israël pour son Dieu. Le premier, vous le trouvez dans les versets 10 à 12. C'est, verset 12, « Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, garde-toi d'oubli. » L'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Voilà, maintenant que tu es arrivé, maintenant que tout te réussit, maintenant que tout va bien pour toi, après toutes les épreuves que tu as connues, tu dois te souvenir que si tu as toutes ces choses, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce que Dieu t'a aimé. Comprenez-vous pourquoi ? Tu te souviendras. Et si nous arrivons à dimanche après-midi, nous allons nous souvenir de quoi? De la mort de Jésus, qui nous donne la vie. Et nous allons jamais oublier cela, que si nous sommes sauvés, c'est à cause d'un autre qui a donné sa vie pour nous. Tu te souviendras de cela. Alors, on comprend que dans l'Église primitive, on prenait l'Eucharistie, la Sainte Cène, tous les jours, parce qu'on s'en souvenait. Tous les jours, tu te souviendras. C'est là le danger, c'est d'oublier. Et si vous arrivez au chapitre 8 du Deutéronome, vous verrez de nouveau ce danger qui est signalé. Quand tout ira bien pour toi, quand tu aurais été délivré, que tu n'arrives pas à dire, eh bien c'est moi qui suis arrivé, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est ma sagesse qui m'ont procuré tout cela, et que tu n'oublies, l'Éternel. Quel est le danger de notre cœur, qui nous perd toujours? L'orgueil. Quand on s'attribue quelque chose, au lieu d'attribuer toute chose à Dieu. Et alors, il n'y a plus de reconnaissance. Le deuxième danger, vous l'avez au verset 13 à 15, le second danger est celui qui proviendra de la contagion des nations païennes qui nous entourent. Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Voilà le deuxième danger, c'est la contagion. Et quand vous regardez un peu ce qui se fait dans ce monde, qu'est-ce que vous entendez, même parmi les jeunes qui se disent chrétiens? Tout le monde le fait. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? C'est la contagion, on fait comme tout le monde, on imite le monde. Et que dit l'apôtre Paul? Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne faites pas comme le monde. Vous avez une autre vie à manifester. Et c'est ça, c'est ce danger, le danger de la contagion, de faire comme le monde. Et alors, le troisième danger, verset 16, c'est celui de manquer de confiance et de soumission dans les épreuves. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Ça, c'est toute une histoire que vous pourrez lire dans l'Exode. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et les ordonnances qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel te l'a dit. Et à la fin, alors, versets 20 à 25, après nous avoir mis en garde contre les murmures, contre ce danger de nous impatienter dans les épreuves et de murmurer au lieu de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'apprendre par cette épreuve? Alors vous avez au verset 20 à 25 la recommandation du verset 7 qui est reprise et développée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de merveilleux. Verset 20 à 27. On reprend le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras de cette parole quand tu seras dans ta maison. Alors, qu'est-ce qui se produit? Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites? Est-ce que nos enfants peuvent nous poser des questions au sujet de notre foi? Qu'ils peuvent nous demander, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, papa? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi est-ce que tu es comme cela, maman? C'est beau, ça. Alors, on a quelque chose à dire à nos enfants. Ce n'est pas une foi rigide, mais c'est notre vie qui questionne nos enfants, parce qu'ils voient que dans la vie d'autres personnes, il n'y a pas ces choses-là. Et alors, ils aimeront notre foyer, s'ils voient que nous vivons vraiment d'après les Écritures, parce que nos enfants nous observent. Il est dit que les cieux aussi nous observent, mais les premiers qui nous observent, ce sont nos enfants. Et s'il y a si peu de foi parmi les jeunes, souvent, c'est que les jeunes ont vu très peu de foi chez les plus anciens, chez les parents. Alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré pour nous, sous nos yeux, des miracles, des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre le Pharaon, contre sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a ordonnés. Est-ce qu'Israël a mis en pratique? Non. Ce peuple qui a été choisi par Dieu pour être témoin de l'unité de Dieu dans le monde, ce peuple, une fois installé, est retombé dans l'idolâtrie. Dieu lui a envoyé des prophètes pour les faire revenir au Seigneur. Ces prophètes leur ont parlé très fort Qu'est-ce qu'on a fait de ces prophètes? On les a tués. On ne les a pas écoutés. Alors Dieu a permis que leur temple soit détruit, que la ville de Jérusalem soit rasée, que le peuple soit emmené en captivité à Babylone. Tout cela, mes amis, ce n'est pas des contes de fées, ce ne sont pas des légendes. C'est la vérité historique. Mais lorsque ce peuple a été captif à Babylone, après avoir connu déjà la captivité d'Égypte, une fois captifs à Babylone, ils se sont humiliés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait remonter un groupe de captifs par l'intermédiaire d'un roi païen qui était Cyrus. Dieu a converti ce Cyrus, roi de Perse, qui a ordonné à tous les Juifs qui étaient de ce peuple de remonter, ce qu'ils voudraient, à Jérusalem pour rebâtir Jérusalem, pour rebâtir le temple. Et c'est ainsi qu'au moment où devait naître Jésus, le temple était reconstruit, pas dans une forme aussi glorieuse qu'au temps de Salomon, mais il y avait un temple de Dieu là au milieu de Jérusalem. Et alors, à ce moment-là, oui, Dieu a dit, j'ai encore un fils. Et ce peuple qui s'était libéré de l'idolâtrie, qui voulait suivre la loi, ce peuple a eu l'occasion de recevoir qui? Il est venu chez qui, Jésus? Chez les siens. Le Messie était promis au peuple juif. Et c'était le peuple juif qui devait le recevoir. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Après avoir tué les prophètes, ils ont dit, voici l'héritier, tuez-le, et l'héritage sera à lui. Et ils ont mis au temps du Christ la mesure, ils ont comblé la mesure de leur père, et ils l'ont crucifié. Et alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? En l'an 70 de notre ère, comme l'avait annoncé Jésus, la ville de Jérusalem a été entourée par les armées romaines sous la direction de Titus et Jérusalem a été détruite et ce fut la grande dispersion parmi tous les peuples de la terre. Jusqu'à ce qu'en 1948. L'État d'Israël fut reconstitué. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés dans une période extraordinaire? Est-ce que c'était prédit? Mais en attendant, puisqu'Israël a manqué à sa mission, Israël a été mis de côté, et on le voit bien. Et qui est-ce qui a été employé pour devenir témoin de Dieu dans ce monde depuis 2000 ans? L'Église. Ce Jésus qui était la pierre angulaire et que les Juifs ont rejeté est devenu la pierre angulaire de quel édifice? De l'Église. C'est ce que nous allons voir demain. Jésus est devenu la pierre angulaire d'un nouvel édifice. Il est devenu le fondateur d'un nouveau peuple, qui est le peuple des croyants. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Où le peuple de Dieu est composé de tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. De sorte que le peuple de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas les juifs. Le peuple de Dieu, c'est tous les croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs. Ça, c'est le peuple de Dieu. Mais l'Église, qui avait reçu cette mission de proclamer l'Évangile et de vivre le message du Christ, l'Église, devenue chrétienté, qu'est-ce qu'elle a fait? aujourd'hui, regardez un peu l'état de l'Église. Elle s'est divisée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans la chrétienté? Qu'est-ce qui vient? C'est l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est le rejet ouvert des vérités du christianisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été baptisé? Vous avez tous été baptisés. Donc vous devriez tous être des chrétiens. Qu'est-ce que vous croyez de votre christianisme? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez dans votre ventre, dans vos entrailles, pour Dieu et pour Jésus-Christ? Est-ce que vous avez pris position une fois pour lui? Nous disons que nous croyons, mais est-ce que nous voulons vivre cela? Vous savez ce qu'ils nous disent, les athées? Ils nous disent, les gens qui se disaient chrétiens n'ont pas vécu l'Évangile. Il y en a beaucoup qui ont lu quand même de l'Évangile et qui auraient aimé trouver des gens qui vivent vraiment le message de l'Évangile. Des gens qui aiment. L'obstacle à la conversion d'un monde incrédule, il est dans l'Église. L'obstacle à la conversion des musulmans, il est dans les iniquités que la chrétienté a commises par les croisades. Ce qui empêche la conversion des juifs au Seigneur, c'est les iniquités que l'Inquisition a commises en massacrant les juifs. Et qui est-ce qui a commis l'Holocauste? C'est qui? C'est des gens baptisés, catholiques ou protestants, peu importe. Et alors les juifs nous disent, comment voulez-vous que nous croyions? Mais quand on leur dit, est-ce que Jésus aurait fait cela? Oui, les chrétiens ont fait cela. Mais est-ce que Jésus l'aurait fait? Je n'ai jamais rencontré un juif pouvant dire, Jésus l'aurait fait. Je n'ai jamais rencontré un arabe qui nous accuse des croisades, dire Jésus l'aurait fait. Ils admettent tous que Jésus n'a jamais voulu ça. Alors, à nous de nous ressaisir, c'est ce que nous verrons demain. L'appel que Dieu nous demande. Et c'est pourquoi, en terminant, je vous demande, est-ce que vous avez pris cette petite, ce petit papier-là, devenir enfant de Dieu, si vous n'étiez pas trop fatigué, ce soir, dans votre lit, bien étendu. Vous avez un interrupteur près du lit? Bien, vous devez vous relever. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est votre chambre. Relisez encore une fois cela. Devenir enfant de Dieu. Ce n'est que des textes bibliques qui sont mis les uns après les autres. Et vous aurez alors, pour vous endormir, la parole de Dieu. Et demain, quand vous vous éveillerez, vous verrez que même dans votre sommeil, cette parole opérera. Et vous vous réveillerez en disant, bien voilà, je m'éveille maintenant, et mon sommeil m'a été doux. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et pour moi, Père de grâce, Père de miséricorde, au soir de cette semaine qui se termine, encore une fois, nous voulons te demander de nous saisir les uns les autres par ton esprit et de nous révéler ce que tu as à nous dire pour notre bonheur personnel, pour notre bonheur familial, pour notre bonheur social, dans un monde qui va si mal. Donne-nous de croire et de t'aimer. Amen.